Que se passait-il il y a un siècle, par exemple, en Alsace? Alors, on était en 1912, à la veille de la Première Guerre mondiale, et puis il y avait une presse en très bon état de santé en Alsace, avec 52 journaux politiques en Alsace, il y a un siècle, hein, parmi lesquels 24 quotidiens, donc deux en français et un bilingue, avec un tirage total de 2300 exemplaires, soit près d'un exemplaire pour trois habitants à l'époque, hein. Une presse catholique et une presse libérale très forte. Dans les années 1930, donc une quinzaine d'années après, on achète à ce moment-là volontiers deux quotidiens en Alsace. La radio n'en est encore qu'à ses premiers balbutiements. Bref, on est plutôt dans une presse en bonne santé. Et un siècle après, combien de journaux restent-ils parmi cette multitude? Il y en a deux, hein, dont on a dit qu'ils appartiennent aujourd'hui au même patron. Ça, c'est pour la presse quotidienne. À quoi ça goûte d'autres médias, hein, notamment des feuilles de chou, hein, pour reprendre le nom du blog de notre ami, des feuilles de chou, hein, comme, c'est pas du tout péjoratif, hein, comme LT, comme Tonic. Descendant d'anciennes feuilles de chou, hein, dans les années 70-80, qui s'appelait Klopstein, hein, il y a aussi d'autres variantes d'intervention. Mais enfin bref, en matière de presse officielle, il y a quand même deux médias dominants. Je parle de la presse quotidienne. Hein. Parce qu'avant, on en avait quand même une vingtaine. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a un vrai pluralisme? J'ai envie de faire réagir Edouard et Michel là-dessus. Est-ce qu'il y a un vrai pluralisme dans cette presse? Ou est-ce que la situation, par exemple, vécue et vue de l'autre côté du Val d'Alsace, hein, dans les Vosges, ne peut pas être quelque part, et malheureusement, prémonitoire de notre situation dans les Vosges, pour ceux qui ne savent pas. Il y a eu des regroupements il y a quelques années où chacun disait « Ok, je rachète, mais chacun, vous resterez tous indépendants ». Aujourd'hui, les titres de côté sont considérablement mutualisés, hein, pour une large part, avec des titres restés différents, mais des contenus souvent semblables. Alors, Edouard, peut-être ton point de vue sur ce pluralisme.
Donc juste pour faire le point, effectivement, cette histoire de fusion, pour quelques mots de la situation économique et où on en est, quoi. Donc effectivement, le Crédit Mutuel, qui était propriétaire de l'Alsace, a racheté les dernières nouvelles d'Alsace, plus tout un tas de journaux en France, c'est ce que disait M. Meyer seul. Voilà. Pour l'instant, on en est là. C'est-à-dire que dans les faits, fait encore des journaux différents. Je pense que pendant des mois, des années encore, il y aura une vraie différence pour deux raisons. D'une part, là, c'est vraiment de l'économie, enfin, le rachat donc des DNA et des autres journaux par le Crédit Mutuel a été conditionné d'une clause qui est clause de alors je ne me souviens plus le terme exact, mais différenciation des contenus. C'est-à-dire en gros, il y a une autorité de la concurrence qui a dit si vous nous faites le même journal, on vous allume et attention, il y a une amende qui ne va pas être triste. Donc en gros, non, vraiment. Je peux vous dire que l'amende que le Crédit Mutuel pourrait devoir verser, c'est quelque chose de vraiment sérieux. Quoi. C'est pas juste quelques centaines de milliers d'euros ou quelque chose comme ça. Mais bref, donc tout ça pour dire que dans un premier temps, l'actionnaire, donc notre patron, n'a pas du tout intérêt à mutualiser tant que ça. Voilà. Cela dit, le risque existe, il est vrai. Et on voit bien ce qui se passe dans d'autres régions. Il y a des régions en France où on est dans des situations qui sont complètement dingues, c'est-à-dire qu'il y a deux journaux qui sont censés être différents, c'est-à-dire que la première page est différente, dans le coin de Troyes, Dijon, je crois que c'est le cas, vers Marseille aussi. C'est-à-dire que la première page est différente, le titre est différent, mais le contenu à l'intérieur est exactement identique. Mais c'est mot pour mot. Quoi. Voilà, ça c'est le risque. Bon, je pense qu'on va pas y arriver tout de suite, mais c'est une inquiétude, quoi. C'est clair que le Crédit Mutuel, comme son nom l'indique, est un spécialiste de la mutualisation. Voilà. On ne sait pas encore jusqu'où ça va aller. Pour l'instant, on est encore différent. J'espère qu'on va le rester. Parce que, très honnêtement, moi je sais qu'au quotidien, c'est quelque chose qui est vraiment rare et précieux, qui est pour les lecteurs, mais y compris pour nous, professionnels, d'avoir deux titres différents, de bonne qualité, je pense, l'un comme l'autre. Voilà. Ça serait triste pour le pluralisme de l'information qu'il n'y en ait plus qu'un ou qu'il y en ait enfin, deux qui se ressemblent beaucoup. Quoi.
On va demander à Michel comment c'est vécu de l'intérieur. Après, tu aurais précisé que ces regroupements ont quand même entraîné le départ très récent de 110 journalistes à l'Est républicain, à Vosges Matin, Ex-Liberté d'Est et au DNA. 55 départs dans ce seul média, pour une rédaction de 190 journalistes. Est-ce que ça. Comment le travail se passe aujourd'hui? Comment est-ce que, Michel, les choses sont vécues de l'intérieur? Tu peux nous dire ce qui se passe, comment ça se passe en coulisses?
Alors, bon, je confirme ce que disait Edouard. Pour l'instant, il y a encore deux journaux avec deux contenus différents. Mais tout le monde le sait, puisque tout le monde s'abonne aux deux journaux, bien sûr, ici. Voilà. Sinon, au quotidien, en effet, au DNA, il y a 55 personnes qui ont quitté le journal au moment du rachat grâce à un système qui s'appelle la clause de cession. C'est-à-dire que quand un journal est racheté par un nouveau propriétaire, les journalistes peuvent faire jouer ce droit en disant voilà, je ne suis pas d'accord avec le nouveau propriétaire, donc je quitte le journal. Évidemment, je quitte avec une indemnité. Et évidemment, tous ceux qui étaient à un an ou deux de la retraite, ils se sont dit bon, là, c'est le moment, on y va. Donc en gros, il y a 55 personnes qui sont parties, et nous, au quotidien, on doit faire la même chose qu'avant. Donc, c'est pas évident. Donc, forcément, on ne fait pas la même chose qu'avant. Enfin, je ne suis pas trop concernée à table, puisque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous, les réductions d'effectifs ont eu lieu déjà il y a plusieurs années, donc nous on s'est habitués à travailler en sous-effectif. Maintenant c'est vrai que j'imagine que dans des rédactions comme Strasbourg ou Colmar, avec un tiers du personnel en moins, ça ne doit pas être évident à gérer. Mais pour l'instant, il y a toujours deux journaux, donc les journalistes des DNA continuent à faire ce qu'ils faisaient avant, ou essaient de continuer à faire leur travail en tout cas. Maintenant, on parle du pluralisme de la presse. On parlait d'un pluralisme réel ou de façade. Mais l'équation, elle est simple. Si vous voulez qu'il y ait un pluralisme de la presse, il faut acheter la presse. Parce que si plus personne n'achète, ben forcément les journaux se cassent la gueule. Parce que les journaux, c'est des entreprises privées qui doivent faire du chiffre d'affaires pour fonctionner. Et si personne n'achète le journal, ben forcément au bout d'un moment, le journal se casse la gueule et il ferme. Et les journalistes sont virés et il n'y a plus de pluralisme de la presse. Donc moi je trouve que c'est un peu faux cul. De la part de certaines personnes, de dire qu'il n'y a plus de pluralisme de la presse, alors que la moitié des gens dans cette salle n'ont certainement pas abonné à un quelconque journal local, certainement peut-être au monde diplomatique ou autre chose, mais au niveau de la presse locale, il ne faut pas s'étonner qu'il n'y ait plus de pluralisme si on n'achète pas de journal.
Bien. Avant vos questions, une question à Géraldine, est-ce qu'il y a les mêmes regroupements dans l'audiovisuel? On a parlé du transfert du siège, de Strasbourg à Nancy. Où est-ce qu'on est l'audiovisuel le plus petit?
Du siège de Strasbourg à Nancy, du siège du pôle Nord-Est, alors oui, ça, non, je pense pas qu'il y ait de conséquences à ce niveau-là. France 3 est regroupée en pôle, effectivement, pôle Nord-Est, pôle Nord-Ouest, voilà. La question du pôle Nord-Est qui est, imaginez, Boulogne-sur-Mer, Mâcon, vous voyez, le pôle Nord-Est, c'est vrai. La question c'était de savoir est-ce qu'il reste à Strasbourg ou est-ce qu'on le met géographiquement un peu plus proche des autres stations. Voilà, la question de Nancy c'était ça, mais il n'y a pas de question de regroupement derrière. C'est pas, voilà, c'était juste techniquement, est-ce que le patron du pôle Nord-Est est bien placé à Strasbourg géographiquement ou à Nancy. Voilà, c'était bien pour ça.
Merci. Jean-Claude Bélier, rapidement,
pour qu'on puisse faire des choses avec. Je voudrais quand même faire remarquer, je pense aux exemples que je connais le mieux, celui des DNA que je dis tous les jours, et l'Alsace, donc qui sont dans le même groupe. Il y a déjà en fait une mutualisation qui ne dit pas son nom. En tout cas, dans l'Alsace, dans le DNA, c'est très visible. Le premier, c'est fait en plusieurs cahiers, hein, donc l'Alsace aussi. Hein. Mais le premier cahier des DNA de l'Alsace, c'est là où vous avez la politique internationale et la politique nationale. Vous observez que 9 articles sur 10 ne sont pas signés. C'est-à-dire que, et c'est les mêmes articles que vous trouvez dans tous les journaux, parfois dans la presse quotidienne et aussi dans la presse nationale. Pourquoi? Parce qu'en général, c'est l'agence France Presse qui fournit des articles, ou reterre parfois, hein. Et là, il y a déjà une mutualisation dont on ne parle jamais. Bon. Donc y a, les journaux se ressemblent tous déjà par rapport à ça, le national et l'international, parce que sinon il faudrait payer, comme le faisait autrefois le Monde, mais même le Monde le fait moins, il faudrait payer des correspondants permanents dans des endroits, comme Charles Anderlin par exemple, qui a un correspondant permanent, parce que sinon vous avez une source mondiale de mutualisation, AFP, Reuters et les quelques autres agences qui existent en Russie ou en Chine. Hein. Bon, ensuite une deuxième petite chose comme ça, concernant, parce qu'il faut distinguer, alors la mutualisation, moi j'ai déjà observé que même pour des articles, bon peut-être régionaux, sur certains sujets culturels, j'ai déjà observé au moins deux articles dans les annales d'Alsace qui étaient signés, honnêtement, par un journaliste, alors de Dijon ou d'ailleurs, hein, et effectivement, mettez-vous à la place de monsieur Lucas, qui lui cherche à gagner de l'argent, et là il y a un problème. Je vous rappelle juste comme ça en passant, que le Conseil national de la résistance, issu de la Seconde Guerre mondiale, à l'époque où il y avait les gaullistes et les communistes, n'est-ce pas, qui étaient les vainqueurs politiques de la résistance, eh bien, dans ce texte consacré aux médias, il est dit que les médias doivent être indépendants de toutes les puissances financières et politiques. Indépendants des puissances financières. C'est fini aujourd'hui, la plupart des médias, sauf quelques exceptions qu'on pourrait citer si on a le temps. Eh bien, bon, il y a le Canard enchaîné, il y a Mediapart, maintenant que je vous conseille vivement, bon, c'est pas sur papier, mais Mediapart, voilà. La plupart des journaux et même des télés et des radios appartiennent à des grands groupes financiers dont la finalité est de faire du fric. Voilà. Donc ça corrompt tout. Il ne s'agit pas d'attaquer encore une fois les journalistes. Et surtout pas les localiers ou les. Bon, parce que ceux-là, ils font le boulot, ils sont de plus en plus précaires, et c'est vrai que c'est difficile. Hein. Mais il faut quand même voir le système général. Et Acrimed a des propositions pour faire un grand service public des médias.
Bien, merci.
Voilà. Je peux faire une précision juste à titre indicatif, particulièrement. Je veux juste une précision par rapport au service public. 2010, 3 millions d'euros de budget pour France Télévisions. 2,5 millions venaient de la redevance et 0,5 de la pub. Ça donne sûrement plus d'indépendance que quand on dépend totalement de la pub. Après, la question peut être posée. Bon, je sais que c'est clair que mon patron, c'est l'État, donc on pourra en discuter. Voilà, 2016, la publicité est censée disparaître sur le service public. Donc la question est intéressante à poser aussi, de savoir comment fonctionnera après.
Bien. Voilà, il y a un micro à votre disposition. Donc,
je voulais dire, si c'est ouvert au